On l'évoquait à l'instant, Natacha, bonjour.
Bonjour.
Le ministre de l'Intérieur est partout ce matin.
Le mea culpa de Castaner est à la une du Figaro. Et le journal rapporte que s'il est officiellement soutenu, du côté de l'exécutif, ils sont nombreux à douter de ses capacités à exercer ses fonctions. Le premier flic de France s'est tiré une balle dans le pied, écrit Frédéric Vézard dans son édito pour Le Parisien aujourd'hui en France. Le journal donne la parole à un ancien locataire de la place Beauvau, Brice Hortefeux. Il lui reproche sa précipitation. Le temps de l'enquête, le temps judiciaire, n'est pas le temps médiatique, dit-il. Le temps médiatique, c'est l'angle du journal Le Monde ce matin. Les stratégies de communication du ministre y sont décortiquées. Très friand des interventions destinées aux chaînes d'info, le ministre a pris l'habitude de réagir à chaud. Pour le journal de la Haute-Marne, le cas Castaner n'est autre que le symptôme de l'hystérisation de la parole publique. L'anathème, l'imprécation et l'outrance sont devenus le mode de communication d'aujourd'hui.
Et en plus, on est tous surveillés, c'est ce que nous apprend Courrier International cette semaine.
Reconnaissance faciale, analyse vocale, objets connectés, impossible d'y échapper. Désormais, la création d'un redoutable système de surveillance de masse est possible, écrit Eric Scholl dans son édito. Problème, la réglementation ne suit pas. Un vide juridique. Le journaliste insiste sur la mise en péril de nos vies privées. Si on veut les sauver, il est urgent de sortir de cette fausse neutralité en défendant nos valeurs et nos données. Pour le juriste américain Tim Wu, avec la monétisation des données personnelles, voici l'avènement d'un capitalisme de surveillance. Selon lui, il faut des lois qui modifient fondamentalement les logiques économiques qui gravitent autour de la vie privée. Alors pour le point, cette semaine, la menace démocratique vient d'ailleurs. Le journal dénonce une poudrière identitaire. Islamiste, indigéniste, néo-évangélique, féministe, gilet jaune, n'importe quelle aspérité personnelle peut servir de point d'arrimage à une revendication particulariste, un repli sur une appartenance victimaire, je cite. L'essayiste Jérôme Fourquet est cité dans ce dossier. Il décrit un processus d'archipélisation qui crée un paysage d'îlots identitaires. C'est d'ailleurs l'objet de son ouvrage « L'archipel français », récompensé par le prix du livre politique cette année. Et pour le point, ces identités vindicatives divisent plus qu'elles ne rassemblent et elles seraient un frein aux ambitions collectives.
Et pour un peu plus d'optimisme, Natacha ?
Pour un peu plus d'optimisme, on peut se tourner vers Books ce mois-ci pour l'interview avec l'historien Walter Schnedel. Seule la violence a permis de réduire les inégalités. Non, ce n'est pas très gai. Effondrement d'un État, pandémie, révolution sanglante ou guerre de masse, dans l'histoire, les chocs violents sont restés le plus puissant mécanisme de nivellement égalitaire. Et il conclut par ces mots, à moins d'un bouleversement majeur ou d'une politique de l'égalité entièrement nouvelle, nous nous apprêtons, selon toute vraisemblance, à connaître une longue période de clivage très marquée entre riches et pauvres.
Juste avant votre dernier point, à demander à Jean-Marie Delarue une réaction à ce que dit l'historien Walter Schnedel. Seule la violence a permis de réduire les inégalités ?
Non, je crois pas du tout. Je crois en effet que la violence est un des moteurs de notre histoire politique. Ça, c'est très clair. Et en France, on a quelques souvenirs révolutionnaires derrière nous. Mais je pense aussi que les réformes qui ont suivi par exemple la Deuxième Guerre mondiale, l'instauration de la protection sociale, qui est un facteur majeur qui nous distingue en Europe, n'ont pas été acquis par la violence du tout. Je pense qu'un certain nombre de réformes sont faites dans le débat et dans le calme.
Vous disiez, Jean-Marie Delarue, que ce qui vous inquiétait, c'était l'état de la planète en 2050. Eh bien donc, écoutez le dernier point de cette revue de presse de Natacha Triou pour terminer. Donc Natacha, c'est la question du climat qui a retenu votre attention dans la presse cette semaine.
Oui, car plusieurs revues y consacrent de nombreuses pages sous cet angle. La lutte contre le changement climatique sera politique ou ne sera pas. Dans son dossier Climat Game Over, la revue Regard pose une question. Comment s'arracher à la fascination du désastre pour se mettre en mouvement ? Réponse de l'historienne Sophie Vanisch, il faut conjurer l'effroi, le rendre politique. C'est précisément l'angle d'approche de la revue Uzbek Erika ce mois-ci. La mobilisation est présente, mais comment traduire ce printemps climatique à l'échelle politique ? Pour la journaliste Annabelle Laurent, l'enjeu est de définir l'horizon d'une société post-croissante. Proposer un nouvel idéal entre croissance verte et décroissance, progrès et régression. Une vingtaine de pages viennent démystifier quelques idées reçues, notamment celle selon laquelle un pouvoir écolo ne serait pas adapté à une économie mondiale. Et en couverture de Society cette semaine, l'entretien avec Nathaniel Rich, l'auteur de « Perdre la Terre », une enquête de 2 ans sur 40 ans d'inertie climatique. Pour lui, le réchauffement est un crime au moins par négligence, car depuis les années 60, autorités et industriels ferment les yeux sur des rapports déjà alarmants. Mais il note un changement générationnel, je le cite. « La jeunesse d'aujourd'hui met en avant une autre manière de concevoir le problème. Elle le considère d'un point de vue moral. Elle dit « si nous ne faisons rien, nous aurons tous du sang sur les mains ». Et c'est bien vu parce que c'est sur des motifs moraux que se sont bâtis les mouvements populaires qui ont réussi.